PME Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X PME Radio-du-Bas TV. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, associé dirigeant de GFIP, et Johan Melloul, directeur associé d'Inextenso Finance. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Pauline.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, nous recevons Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGS RH Paris. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Alors Lionel, vous avez une riche carrière dans le monde des RH au sein de grandes entreprises hein, comme Engie, Alstom, Motorola. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'une école IGS qui forme des gens en ressources humaines. Un mot peut-être sur ce changement de cap. Pourquoi ce choix de travailler pour le groupe IGS en école finalement ?
En fait, si vous voulez, j'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes, souvent beaucoup marqués par des fusions-acquisitions, par des LBO aussi. À un moment donné, j'avais envie d'avoir des structures, des organisations dans lesquelles je pouvais faire mon métier de DRH, mais avec des impacts plus visibles, donc avec des organisations à taille humaine. Et en fait... J'ai sans doute pas été très convaincant pour des directeurs généraux, des PDG de TI. Et par hasard, en fait, en faisant des missions de conseil les unes après les autres, je suis tombé sur le fondateur du groupe IGS qui m'a demandé de faire une mission pour lui. Et puis ensuite, d'essayer de faire que ce qui était du conseil devienne réalité. Et en fait, je me suis retrouvé là-dedans par hasard. Mais en fait, finalement, quand on regarde comme on a un impact sur la gestion d'une entité avec un chiffre d'affaires, avec un résultat, avec des dimensions marketing, pédagogiques, etc., c'était finalement ce que je cherchais.
Alors, un petit mot quand même sur l'école IGS. Hein, c'est un groupe d'enseignement supérieur privé. Il existe depuis près de 45 ans. Vous êtes basé dans le 10e. Alors, il y a plusieurs métiers, en fait. Il y a plusieurs voies, finalement. Et vous, c'est IGS RH. Un mot, du coup, sur votre école dont vous vous occupez.
Exactement. Il y a une association, c'est une fédération d'écoles. L'école que je dirige et dont j'ai hérité, en fait, est une école qui a été créée il y a 46 ans, par trois messieurs qui étaient eux-mêmes très diplômés du monde académique, ESSEC, ESCP, Harvard, etc. Et ils ont l'intuition géniale à l'époque, en 75, de penser qu'on pouvait former pour un métier par une voie professionnalisante. Ça veut dire quoi ? Il y avait trois principes de base. Le premier, c'était de faire en sorte de mettre en face des apprenants, j'allais dire, des intervenants professionnels du métier, d'avoir une relation très étroite avec un certain nombre d'entreprises pour que la maquette pédagogique soit bien adaptée aux besoins que les entreprises avaient de recrutement en RH. Et troisième élément, à l'époque, qui était encore plus radical, c'était d'avoir l'intuition que ce qu'on apprenait dans les murs de l'école, il fallait aller le confronter dans les murs de l'entreprise, ce qui était l'alternance bien avant la lettre. Puisque je rappelle que l'alternance pour le monde tertiaire n'est arrivée que dans les années 90 et que ces trois fondateurs ont été très instrumentales pour que l'alternance d'ailleurs s'ouvre au tertiaire.
Alors d'ailleurs, en quelques chiffres, hein, l'IGS RH, c'est 9000 entreprises partenaires, près de 500 tuteurs par an. Juste un petit mot, c'est un prix quand même, l'entrée, comment ça
Alors en fait, on est une école d'enseignement supérieur privé, donc effectivement ça a un prix, donc en statut d'étudiant ou en alternance d'ailleurs. L'alternance ayant le vent en poupe aujourd'hui dans le monde étudiant, si je peux dire ça comme ça. Et donc, effectivement, pour une première année après le bac, c'est de l'ordre de 7 600 €. Et si vous êtes sur un cycle de master avec des doubles diplômes à l'international, parce qu'on a aussi ça, ça varie entre 12 et 14 000 €, pour dire. Voilà.
Guillaume Dosinel, pour vous interroger également.
Quels indicateurs de performance utilisez-vous pour évaluer l'efficacité de vos formations ?
Oh, il y en a plusieurs et on est aujourd'hui très suivi parce que nos diplômes en fait dépendent de France Compétences. Le bras armé de France Compétences, c'est Calliope. Et donc on est très suivi sur nos sites internet, par exemple, on est suivi sur le taux d'insertion, par exemple, à 6 mois. J'ai la chance d'être à la tête d'une école qui peut faire valoir que nos étudiants, 6 mois après la diplomation, ont une insertion à 90,6%, ce qui est gigantesque. Et je pense que les membres de mon équipe y sont pour quelque chose. Et ensuite, on a un taux de réussite, c'est-à-dire quel est le nombre de personnes qui abandonnent au cours du parcours de l'école, qui est à 99,9%. Enfin, voilà, je pourrais vous donner d'autres éléments, mais ceux-là sont très importants. Un indicateur interne pour nous qui est fondamental, c'est le fait, si vous voulez, de l'expérience que les étudiants ont dans leur parcours d'école. En tant qu'école d'enseignement supérieur, il est très important pour nous d'ajouter quelque chose à ce que l'université ne peut pas faire, même si j'ai un très grand respect pour le travail qui est fait à l'université ou dans les écoles de commerce, mais qui est une pédagogie d'accompagnement. Donc on a beaucoup d'éléments de régulation avec eux. Et ça veut dire qu'on est extrêmement exigeant sur leur suivi, sur ce qu'ils veulent faire, ne pas faire, pourquoi, comment. Enfin, on les interroge beaucoup. Et je pense que c'est une des conditions de la réussite, de la maturation de leur projet professionnel. Et ce qui fait que, bon, voilà, on a ces taux d'insertion qui sont très importants.
Très bien. Donc, vous répondez à la question suivante qui était quels étaient les éléments distinctifs de l'IGH sur le marché de la formation. Donc, je passe à la question suivante. Quelles sont les stratégies de croissance?
Alors, les stratégies de croissance, ça a été, si vous voulez, premièrement, historiquement, on prenait des étudiants suite au fait qu'ils aient fait 2 années après le bac, donc en 3e année de licence, pour être très précis. Et puis ensuite, on avait le cycle de master, 1re année de master, 2e année de master. Donc à mon arrivée en 2018 à la tête de l'école, on a décidé d'ouvrir un bachelor, donc ouvert aux jeunes après le bac. Tout le monde m'a déconseillé de le faire. Et je pense que c'est un élément important, parce qu'on se rend compte, on est en pleine campagne là, de recrutement, que des jeunes sortant de bac classique, donc généraliste, ou de bac technologique, sont très intéressés par cette filière. Plusieurs raisons. Je pense que le métier offre une diversité de métiers qui fait que la personne, l'étudiant, le jeune, et les moins jeunes d'ailleurs, n'ont pas l'impression d'être dans une impasse professionnelle parce qu'ils peuvent aller faire de la communication interne, des relations sociales, de la rémunération, du recrutement, la marque employeur, enfin bon, on pourrait en passer, il y a des milliers, contrôle de gestion sociale, etc. Donc cette diversité les attire beaucoup. Et en même temps, on voit qu'on a une capacité à les former année après année, en leur apprenant vraiment quelque chose, avec une pédagogie assez novatrice, qui touche à la capacité de coopérer les uns avec les autres, de faire en sorte qu'on n'ait pas un étudiant consommateur, mais qu'on va exiger d'eux qu'ils répondent à des questions qu'un expert vient leur poser en début de semaine, et il va falloir qu'ils donnent la réponse. Et la réponse, c'est quand même la matière pédagogique. Donc, si vous voulez, voilà, donc on a fait ça. C'est difficile parce que nous, on était identifiés sous la 3e année de licence ou le master, historiquement. Et donc, lancer ce programme en 2018, en 2019, c'était osé, puisqu'on a eu quand même les grèves de la réforme de la SNCF, puis le Covid, puis les grèves de la réforme des retraites. Ça n'a pas permis beaucoup qu'on aille dire dans les lycées, en fait, qu'on avait ouvert quelque chose. Donc là, cette année était plus tranquille, donc on a pu faire ce travail. Mais c'est un vrai, ça, c'est un vrai changement. Et l'autre dimension très importante, qui est l'international. Aujourd'hui, on a 30% de nos étudiants qui ont passé un semestre à l'international. On a, par exemple, en 3e année de bachelor, on offre 15 destinations européennes, parce que je crois qu'il y a un modèle RH européen, et on essaie de leur faire apprendre par le prisme de chaque pays ce vers quoi chaque pays tire la fonction RH. Mais ça n'empêche qu'il y a vraiment un modèle RH européen, donc ils vont en Suisse, ils vont en Pologne, ils vont en Hollande, ils vont en Finlande, ils vont en Portugal, enfin, etc. Et en 3e année de licence, ils vont en Finlande un semestre. Et puis en 1re année de master, ils peuvent aller un semestre ou aux États-Unis ou en Australie. Et en 1re année de master, on a un double diplôme avec l'université madrilène, Universitas Carlos III, qui est une des premières universités en Europe, puisqu'elle offre des accréditations américaines et EQUIS, donc européennes. Et donc, on a un double diplôme. Ils vont faire un semestre à Madrid, puis revenir. Donc, tout le programme est en anglais, évidemment. Et on a des échanges avec Göteborg, qui est une université dans une ville moyenâgeuse, qui est quand même le siège de Volvo. Donc, très spécialisé en nouvelles technologies. Et puis, également avec une université en Inde, à New Delhi.
Ah oui, donc ça fait vraiment beaucoup d'opportunités. Johan, vous avez aussi des questions.
Sur l'univers RH, quels sont vos concurrents directs? Vous évoquiez tout à l'heure les écoles de commerce.
Alors, on a des écoles de commerce, moins aujourd'hui que dans le passé, parce que beaucoup ont plié bagages. Dans la mesure, ils se sont concentrés. Vous savez, l'école de commerce, en fait, est un modèle différent du nôtre, puisqu'il faut une intensité de recherche pour être reconnu dans les classements internationaux. Et donc, on court après l'enseignant-chercheur qui a publié dans des revues de rang 1, voire de revues alpha. Je cite simplement un repère pour vous dire l'intensité que ça représente. Bernard Amamantsou, qui était le directeur général d'HEC il y a de ça maintenant 7 ans, disait que pour recruter un enseignant-chercheur d'une revue alpha, il fallait mettre 120 000 euros pour le recruter. Donc vous vous rendez compte, 7 ans sont passés, le prix que ça représente. Les écoles de commerce sont là-dedans. Et donc évidemment, la fonction RH n'est pas très centrale là-dedans. Donc ils se focalisent sur la stratégie, sur la finance, sur le marketing, etc. Donc il y a beaucoup d'écoles de commerce qui n'ont plus d'options RH. On peut citer celle de Toulouse, qui est un des concurrents directs, même si on ne peut pas dire qu'on est vraiment concurrent, mais qui offre un programme RH. Puis après, on a des programmes classiques d'université, Assas, Dauphine, Sorbonne, évidemment. Si j'oublie Sorbonne, ils vont m'en vouloir. Les IAE. Donc voilà, ça, c'est nos concurrents. Puis il y a quelques acteurs privés. Mais finalement, quand on regarde dans le classement qui compte aujourd'hui, qui s'appelle Eduniversal, on est dans les 10 premiers depuis 30 ou 40 ans. Quoi. On n'a pas quitté ces rangs-là.
Est-ce que le développement de ce qu'on appelle le nomadisme professionnel vous oblige à innover sur vos cours, vos filières, votre organisation?
En fait, nous, déjà quand j'étais DRH, ce nomadisme, on le voyait finalement pas beaucoup, parce qu'on en parle beaucoup, mais quand on regarde les statistiques, on voit que les gens changent de métier ou d'entreprise 5-6 fois, je l'ai fait beaucoup plus qu'eux, donc je ne suis pas vraiment un exemple du coup pour ma génération, ni pour les générations suivantes, mais le nomadisme ne se voit pas beaucoup dans les statistiques. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont une assertivité bien plus grande que nous, en fait, au même âge, sur le niveau d'exigence de ce que doit être une entreprise et de ce qu'ils considèrent être les ingrédients incontournables de leur accueil dans l'entreprise, de leur intégration, de leur développement et surtout de projets intéressants. Et donc, ça pose vraiment c'est un gros niveau d'exigence pour les entreprises qui doivent se remettre en question beaucoup plus souvent. Et là, je ne citerai pas parce que ça serait désagréable, mais il y a des gens de la fonction RH avec de très, très belles marques qui, de temps en temps, viennent taper à notre porte pour nous dire on voudrait bien de l'apprentissage parce qu'on arrive à avoir personne. Quoi. Donc, ouais. Et je ne vous cite pas les noms des marques, mais elles sont dans les meilleures marques du monde. Donc,
il y a de quoi faire, du coup.
Et donc, ça veut dire que oui, mais en fait, la marque ne suffit pas. Ah, oui. L'attractivité employeur, c'est surtout des conditions et de l'organisation du travail. Et si effectivement, on n'a pas cette impression-là, même si la marque est outrageusement dominante, les étudiants n'y vont pas.
Et enfin, le marché de la formation est un marché très actif où des rapprochements sont nombreux. Est-ce que, en tant que leader, vous regardez, vous êtes en veille sur le marché ou vous mettez en position de saisir des opportunités?
Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas d'actionnaire. On est une association. Et donc, vous savez qu'une association, le pouvoir, c'est la majorité politique. Hein. C'est celle des actionnaires. Enfin, ce n'est pas des actionnaires, c'est des membres de l'administration, enfin de l'association. Donc, on n'est pas du tout avec un système actionnarial, etc. On a beaucoup de concurrents qui ont fait rentrer des fonds, des écoles de commerce, l'UM Lyon, que je connais bien. Il y a Galiléo, il y a Ionis, etc. Donc, il y a beaucoup de concurrents avec vitaminés, j'allais dire, avec des fonds qui font beaucoup d'emplettes, etc. Il faut comprendre que le marché de l'éducation est un marché qui offre des perspectives de croissance presque sûres, ce qui est quand même rare dans ce monde d'incertitude dans lequel on est, puisque l'offre d'éducation ne va pas se tarir. Il ne cesse d'augmenter en Afrique, enfin partout. Et donc en Europe aussi d'ailleurs, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui accèdent en fait à cette offre d'enseignement supérieur. Et donc ce qu'aiment bien les fonds, c'est les revenus récurrents. Je vois que vous acquiescez. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de fonds mid-cap et qui se mettent sur ces marchés. Mais nous, on est un peu à côté. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous pouvez voyez passer les trains. Oui et non, parce qu'en fait, on a un modèle qui est différenciant, en fait, d'une certaine manière. Donc, on compte plus sur notre croissance endogène. Alors.
Eh ben, on vous souhaite tout le meilleur. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Lionel Prudhomme. Merci à vous, Guillaume et Johan. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité, bien sûr. Merci.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.